Dans le silence, Dieu parle ma langue. Voici quelques mots extraits d'un petit livre lumineux qui m'a été prêté, Un cœur sans rempart de Marie-Laure Choplin. Il est certain temps de nos vies où Dieu peut paraître silence. Et ce matin, avec la lecture du livre d'Esther, nous allons l'expérimenter. Esther fait partie du Premier Testament, classée dans la partie dite des Écrits. Cette partie regroupe en fait tous les livres qui n'ont pas de place dans les deux autres parties, que sont les livres de la loi, ou Pentateuque, et les livres prophétiques. Dans cette partie des Écrits, on trouve aussi entre autres les psaumes, le Cantique des Cantiques ou le livre de Job. Les Écrits sont des livres de style poétique au sens hébreu du terme, c'est-à-dire qui permet de donner de la force à ce qui est dit. Je choisis ce matin de partager avec vous ce livre si particulier, en commençant par son début, et je le poursuivrai cet automne à d'autres cultes. Esther est le nom de l'héroïne du livre. L'histoire se passe en Perse, au Proche-Orient, au 5e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Xerxès, et raconte comment une communauté juive exilée dans cette région est menacée de génocide et comment Esther, une simple jeune fille juive, va la sauver. À cette époque, les Perses dominent le Proche-Orient. Des communautés juives sont installées dans cet immense empire, mais rencontrent des difficultés face aux lois et aux coutumes différentes des leurs. Il ne vous a pas échappé, lors de la lecture du chapitre 1, que toutes les clés d'une bonne intrigue sont réunies. Mise en place des protagonistes et de la scène, déroulement, drame et dénouement. Et tout cela avec suspense, humour et de l'ironie. Ce roi est riche et il le montre. Il organise un grand repas, un banquet. La racine de ce mot en hébreu est « boire ». Il organise un banquet pour ses fonctionnaires importants, ses ministres, les officiers de l'armée, les gouverneurs, les chefs de province. Et ceci, nous dit-on, pendant 6 mois, pour montrer à tous les immenses richesses de son royaume et le luxe magnifique qui fait sa grandeur. L'existence de ce roi est attestée historiquement. Et il est intéressant d'apprendre que dans l'histoire, en général, hors de l'histoire biblique, Xerxès a laissé le souvenir d'un personnage peu équilibré et violent. Je vous laisserai relire ce chapitre 1 chez vous, tranquillement, qui se laisse agréablement compter, et cela vous donnera sûrement l'envie de lire aussi la suite du livre, 10 chapitres en tout. Dans notre chapitre 1, ce roi est tellement imbu de sa personne que lorsque son épouse, la reine Vasti, féministe avant l'heure, je ne vais pas prêcher là-dessus, hein. Vous avez eu peur. Peur ou content, je ne vais pas prêcher là-dessus. Je pense que ça passe de tout commentaire en fait. Donc Vasti, imaginez-vous quand même 5e siècle avant Jésus-Christ, ce qu'elle a osé faire, qui refuse de venir s'exhiber devant les subordonnés de son mari. Le roi donc pique une grosse colère et, avec l'aide de ses plus fidèles conseillers, décide, blessé dans son amour-propre, de renvoyer la reine et tout simplement d'en choisir une autre. Et puis enfin, vous avez compris, de peur que toutes les femmes du royaume se mettent à prendre exemple sur le comportement de la reine, Xerxès publie un décret ordonnant à tout homme de rester maître de sa famille. Bien. Alors, cette histoire, c'est bien joli, n'est-ce pas? Mais je suis quand même en train de prêcher avec vous ce matin. Et prêcher, c'est annoncer une bonne nouvelle. Alors, où est la bonne nouvelle de Dieu, du Dieu de Jésus-Christ, ici, dans ce livre d'Esther, ou en tout cas dans ce premier chapitre? Vous l'avez sûrement remarqué à la lecture, aucune mention de Dieu, ni même d'une quelconque attitude spirituelle ou même religieuse. Et en lisant les 9 chapitres qui suivent, vous n'en trouverez pas davantage.
Certains rabbins en ont même été troublés et ont hésité à faire entrer ce livre dans le canon biblique. Pourtant, aujourd'hui, ce livre fait bien partie de notre Bible, choisie pour contenir la parole de Dieu et témoigner de sa présence. Alors, où est-il notre Dieu ? Où est Dieu ? Est-ce que cette question ne nous est pas un peu familière ? Ne sort-elle pas parfois de nos bouches ou de nos cœurs ? Si elle est bien le leitmotiv des non-croyants, adressé aux croyants lors de catastrophes naturelles ou humaines, telle une question lancinante qui revient à nos oreilles et dont nous avons, et d'une, du mal à nous débarrasser, et de deux, du mal à y répondre, cette question centrale, « Où es-tu, mon Dieu ?» jaillit aussi du plus profond de nos cœurs, de croyants blessés. Nous entendons ici le cri humain exprimé dans le psaume 22. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Je crie, mais ton secours ne vient pas. » Cette question est légitime. Qui pourrait se contenter de regarder sagement des enfants guerriers s'entretuer, des populations décimées par une catastrophe naturelle ou par la main des hommes, des femmes et des enfants en guenilles en bas de notre immeuble, ou des parents qui perdent un enfant? Qui le pourrait sans crier à Dieu « Où es-tu ?» Pour certains croyants, il peut en être un peu autrement. Dieu est au-delà, au-delà de nos vies. Il les englobe dans le bien comme dans le mal. Étant tout autre, il ne nous est pas possible de faire entrer Dieu, c'est-à-dire de le faire correspondre à nos désirs humains d'assurance de sa présence. Certains croyants partagent que quoi qu'il en soit et de toutes les façons, Dieu est là, et c'est ainsi. Et que nous le sentions ou non, cela n'est pas de notre fait. Lui, il est bien là, et c'est tout. Il est là au-dessus de tout. Il nous reste alors l'élan, la confiance, la reconnaissance. Et puis, nous le savons, c'est notre espérance chrétienne. En Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, Dieu a choisi de se faire proche de nous. Mais voilà, nous restons des êtres humains et nous aimerions souvent pouvoir toucher du doigt ce Dieu qui nous accompagne, en particulier dans les moments plus difficiles de nos vies. Je pense que vous connaissez tous le film « des hommes et des dieux » de Xavier Beauvois, vous savez, sur les moines de Tibérine, qui a été d'ailleurs de façon inattendue reçu très favorablement par nos contemporains. Frère Christophe, face à la violence et la peur de mourir, pleure et crie à Dieu dans sa cellule. « Où es-tu ? Réponds-moi, je ne t'entends plus. » C'est une scène très émouvante de ce film qui rappelle à tous que nous pouvons crier à Dieu notre désespoir et que le doute fait aussi partie de la foi. Loin de nous cette idée que s'il nous arrive de douter, nous sommes alors de piètres chrétiens. Jésus-Christ lui-même, Dieu fait homme, a crié son désespoir à son Père sur la croix en reprenant les paroles du psaume 22 que j'ai cité tout à l'heure. Dans notre livre d'Esther, donc, pas de mention de Dieu. Mais ce qui peut sembler au premier abord comme une histoire biblique perdue et sans intérêt, témoigne en réalité d'un astucieux procédé qui place le lecteur dans la même position que les héros du récit, pour qui la présence divine n'est pas évidente, mais qui sont appelés à la discerner dans leur quotidien. Au lieu de dire Dieu de façon claire, le livre d'Esther choisit d'engager le lecteur à trouver lui-même Dieu derrière sa propre vie. Ce livre nous invite à cet exercice difficile, nous dégager des événements de nos vies, non pas pour les rejeter ou pour les fuir, mais pour essayer de les considérer à leur juste place, bons ou mauvais, dans la certitude que la présence de Dieu, elle, est sûre, au-delà, éternelle, et qu'elle ne dépend pas et ne dépendra jamais du bon ou du mauvais vouloir de nos vies. Comme un clin d'œil, Esther en hébreu signifie « caché ». C'est le seul livre de toute la Bible qui procède ainsi. Vraiment, apprenez à le connaître. Ce livre tient d'ailleurs toujours une place importante dans la religion juive. Chaque année, la fête de Pourim célèbre la délivrance d'Esther dans les communautés. Finalement, cette attitude d'interprète face à la vie est celle qui caractérise le plus souvent l'attitude croyante. Rares sont celles et ceux parmi nous qui ont entendu Dieu leur parler à haute et intelligible voix. Nous apprenons plutôt par la prière, la confiance à entendre et à voir Dieu malgré tout. Et puis ce chapitre 1 d'Esther avec cette figure de ce pauvre riche roi, ivre de pouvoir, et le style exagéré dans lequel il est décrit, nous permet aussi de nous poser cette question. Et moi, quel est le rêve qui me fait avancer? Qu'est-ce qui compte vraiment dans ma vie? Quel est mon idéal? Quelle forme de relation je souhaite vivre avec les autres? Xerxès, ému par le pouvoir, la richesse et sa démonstration, son but est de montrer qu'il est le plus puissant et le plus riche. Dans sa vie, ce qui compte, c'est que personne ne lui résiste. Son idéal, c'est d'être au-dessus de tous, chaque autre étant bien inférieur à lui en toute chose. Mais pour moi, chacun peut lui-même essayer de répondre à cette question et tracer une route pour ses journées. Moi qui me proclame croyant et disciple du Christ, qu'est-ce qui finalement me fait avancer? Voilà, nous arrivons au terme de ce chapitre 1 du livre d'Esther. De façon romanesque, il est devenu pour nous révélateur de questions plus profondes pour nos vies de croyants. Et parce que ce texte offre encore bien des trésors, nous poursuivrons ensemble sa lecture lors de prochains cultes. En attendant, peut-être ce soir, vous auriez la curiosité de vous plonger dans ce livre d'Esther et je ne pourrai que vous y encourager. Car cherchez Dieu et essayez de l'entendre là où à l'évidence il n'y est pas. Et en témoigner au monde, existe-t-il de plus belles attitudes pour un chrétien ?